Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du numéro 930 d'Invino depuis la création de l'émission en 2004. Comme vous le savez, nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris, au 31 place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio à Pau, par exemple, sur 102.00 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec notamment François Villard, qui sera notre invité, le propriétaire du domaine Villard dans le nord de la vallée du Rhône, et puis le Vino Quiz pour gagner le livre Œnotourisme et spiritueux en France et dans le monde, édité chez Eurol, en jouant sur invinoradio.tv. À mes côtés, comme chaque samedi, Philippe Ormac, meilleur sommelier du monde. Bonjour Philippe.
Bonjour Alain.
Est-ce que vous aimez les vins du Sud-Ouest?
J'adore les vins.
Attention à votre réponse.
Non, j'adore les vins du Sud-Ouest dans leur diversité, dans la diversité des cépages, des styles et dans leur accessibilité en termes de prix en plus.
Bon, très bien. Bah, ça tombe bien, c'était la bonne réponse Philippe, car à bord d'Invino Sud Radio, nous retrouvons Lionel Haussmann, fondateur de la Maison de Négoce. Lionel Haussmann, bonjour Lionel.
Bonjour à vous.
Alors racontez-nous un mot sur votre parcours. Qu'est-ce que vous avez fait avant de créer votre magnifique société en 2010? Vous faisiez quoi?
Un parcours assez classique, des études dans le monde du vin, dans l'agriculture à Toulouse. 12 ans de voyage à travers le monde pour en promouvoir les produits, c'est-à-dire les vignerons du Sud-Ouest, leurs cépages autochtones et nos terroirs que j'apprécie énormément. Et puis après ces 12 ans de voyage où je me suis forgé quelques convictions et quelques idées, j'ai décidé de franchir le pas et de créer ma maison avec Damien Sartori, mon associé, qui est aux manettes de la partie technique.
En 2010, alors quel était le concept, Lionel? L'idée, c'était quoi, de créer une grande marque sous votre nom, de spécialité alors, et d'expertise du Sud-Ouest?
Alors avant de monter une grande marque, on a eu envie de monter une petite signature qui était juste d'interpréter les cépages et les terroirs du Sud-Ouest à notre façon, avec notre sensibilité, qu'on pourra creuser, hein, c'est avec des vins accessibles sur le fruit, mais avec énormément d'identité, puisqu'on a cette chance d'avoir ces cépages-là. Et puis de partir avec ces vins-là en bandoulière et d'espérer trouver un écho positif à la fois à l'étranger, mais aussi sur le marché français.
Mmh. Alors vous travaillez avec des vignerons en partenariat, vous avez des vignes, les deux Lionel?
Alors aujourd'hui ce sont des partenariats, puisque quand on a démarré il y a maintenant 10 ans, nous sommes partis d'une feuille blanche et le compte en banque n'était pas si garni que ça, donc on est parti vraiment de zéro. Donc on a commencé à s'attaquer à identifier les bons terroirs, les bons partenaires, les bons vignerons qui avaient envie de nous accompagner dans cette aventure. Et puis petit à petit, on va de plus en plus loin dans le partenariat, dans la collaboration, on s'implique de plus en plus en amont, et on a en effet depuis quelques mois pris quelques lopins de terre, dirais-je, sous un contrôle encore plus poussé que nous exploitons maintenant.
Exactement. Ouais. Philippe Forbach, c'est classique comme façon de procéder, parce qu'on pense aux vignerons, qu'à ces vignes qui produisent ses raisins, son vin. Il y a d'autres personnes, beaucoup plus modernes, quelque part, comme Lionel. Ça se fait dans d'autres régions de France ou du monde ou pas?
Alors, ça peut se faire, mais c'est relativement rare et c'est une démarche assez singulière. D'autant plus qu'elle couvre quand même à la fois tout le vignoble de Bergerac, Cahors, Fronton, Gaillac, Jurançon, Marcillac, Madiran et même jusqu'en Armagnac. Donc il y a une multi-spécialité, quelque part, qui doit faire appel à des vraies compétences. Mmh. Moi, ma question, c'est de savoir combien vous êtes dans cette équipe, parce que franchement, c'est quand même beaucoup d'appellations. Ouais. Ça couvre aussi un périmètre relativement large, donc il faut être organisé.
Lionel?
Merci pour la question, mais c'est vrai qu'on essaye d'être un peu au four et au moulin. L'équipe, nous sommes une petite vingtaine aujourd'hui.
Ouais, c'est bien, ça bosse.
Mais sans compter toutes les personnes qui s'occupent de la partie viticole.
Oui. Lionel, votre idée également, c'est de produire mieux en visant le zéro résidu?
Alors ça, c'est une démarche qu'on a initiée il y a 2 ans, en effet, parce que, sans être dogmatique, il y a certaines réponses qui ne me convenaient pas forcément dans les modes de conduite classiques, environnementalement mieux disant. Je pense au bio, je pense à la biodynamie. Vous savez, je suis un ingénieur en agriculture et agronome, donc il y a certaines positions dogmatiques qui ne me conviennent pas. Par contre, je suis convaincu qu'il faut travailler pour laisser un environnement plus sain à nos enfants et donner des produits les plus propres possibles à nos consommateurs, mais aussi pour faire des vins qui ont la meilleure expression possible. Et en ce sens, le zéro résidu m'interpelle beaucoup, parce que le zéro résidu s'envisage bien sûr dans les vins, mais également dans les sols. Mmh.
Philippe Orbach, ça veut dire quoi, zéro résidu?
C'est-à-dire qu'il ne reste pas de traces finalement de ce qu'on a pu y faire quelque part, et notamment des traces de produits chimiques, c'est ce qu'on pense le plus régulièrement possible. Et effectivement, alors je comprends le côté dogmatique qui peut gêner, le côté plus rationnel de l'ingénieur. Et effectivement, cette réflexion qui est un petit peu presque, pas spirituelle, mais qui réfléchit à l'avenir quelque part, de laisser
c'est formidable, voilà, pour tout le monde.
Exactement,
de ne pas laisser de traces. Enfants, quoi.
Et au contraire, de nourrir la nature, peut-être, de son expérience.
Lionel Haussmann, racontez-nous, vous avez une gamme qui est très large, on en parlait tout à l'heure avec Philippe Forbrack. Mot sur votre gamme, les villas.
Oui, ce sont les cuvées qui ont démarré le plus rapidement lorsque nous avons initié l'aventure en 2010 avec des vins de cépages, clairement où on met en avant uniquement l'identité des cépages autochtones du Sud-Ouest, un rosé de Négrette, un blanc de Gros Mancer.
Négrette, c'est quoi ça? C'est le nom du raisin?
Ah, c'est la variété de raisin que l'on retrouve sur le vignoble de Fronton et que nous avons vinifié sur des rosés uniquement et en vin de France.
Philippe Orbach, c'est bien la Négrette, non?
Oui, c'est un joli cépage avec des arômes qui rappellent souvent la violette, par exemple. C'est l'un des marqueurs aromatiques et c'est vrai que c'est un cépage particulièrement agréable.
Rien à voir avec les Négrettes vertes? Non, pas du tout. Vous cadrez gentil, presque. Bon, alors Lionel, on continue dans les choses sérieuses, là. C'est quoi votre conservatoire?
Alors, le conservatoire, c'était une... Alors, j'ai fait un peu de musique, donc...
Quel instrument?
Du piston, mais pas suffisant. Je ne suis pas assez doué pour avoir fait le conservatoire.
Il en faut pour avancer.
Il faut pour avancer. Alors, Philippe Orbach, je ne sais pas si vous le savez, Lionel, mais il chante très bien. Entre votre piston et la voix de Philippe, peut-être qu'il y a un truc à faire, non?
Ah, mais on va chanter ensemble, alors.
Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on chante?
Peut-être pas aujourd'hui, si vous voulez.
C'est quoi? C'est Nougaro, finalement, dans votre coin.
Ah oui, c'est vrai, allez, ça c'est bien, ça. Ah.
Moi, je suis juste entre Luis Mariano et Nougaro.
Que des jeunes, ça y est, là.
Entre le Pays Basque et la région toulousaine.
Ah oui, des jeunes chanteurs prometteurs. Alors, racontez-nous, c'est quoi votre conservatoire?
Donc, c'est une gamme qui met en avant les cépages rares du Sud-Ouest, puisqu'on disait tout à l'heure qu'il y a une diversité de ces cépages qui est assez extraordinaire, mais il y en a une certaine partie d'entre eux qui sont très rares, qu'on retrouve très, très peu, qui sont encore très confidentiels, je pense à une bonne proportion de cépages spécifiquement du vignoble de Gaillac, dans le Tarn, à savoir l'Ondenc, le Mozac, le Prunelard, pour n'en citer que trois. Parce qu'il y en a
et ils ont disparu, ceux-là, quasiment.
Alors non, et heureusement, mais d'ailleurs, nous, aujourd'hui, alors je suis dans une position assez confortable, parce que comme vous l'avez compris, j'ai 10 ans de métier, mais si ces cépages sont encore là, c'est grâce à une génération de vignerons qui, il y a 20, 30 ans, ont décidé de les défendre, de ne pas les laisser se perdre, pardon. Oui. Et nous, nous arrivons avec une envie d'en parler, de les mettre en avant et de les défendre pour qu'ils ne soient pas juste confidentiels.
Exactement. Sûr, Philippe Forbach, c'est une chance pour la France d'avoir autant de cépages dans un année richesse exceptionnel. Hein.
Bien entendu. On n'est pas d'ailleurs le meilleur pays placé pour ça, même si on a un conservatoire ou plusieurs conservatoires qui existent. L'INRA a développé un certain nombre de conservatoires, notamment dans le Sud-Ouest. Mais quand on regarde par exemple au Portugal, il y a des centaines de cépages encore utilisés. Rien que dans le secteur de Porto ou dans le secteur de Bairrada, etc., c'était assez impressionnant. Je voulais juste rebondir sur ce que disait Lionel il y a un instant. Sur Gaillac, effectivement, on doit à des gens sûrement comme Plageol, Issali ou les autres, ce travail de conservatoire des cépages traditionnels.
Et ça, c'est une chance.
Et c'est un vrai petit coup de chapeau pour eux parce qu'ils sont là grâce à eux, notamment.
Qu'est-ce qu'on peut imaginer, Philippe, comme type de plat avec ces vins sympas du Sud-Ouest, les grandes cuvées de Lionel ou des vins plus accessibles également?
Alors, là, vous avez compris qu'il y a une grande diversité de vin, à la fois le rosé de Négrette, ça c'est vraiment sur les terrasses quand elles
vont se réunir. Est-ce que c'est un vin canaille que vous dites dedans?
Mais c'est sûrement, et puis avec un petit morceau de terrine de trois copains ou copines, ça fonctionne très bien, en tout cas des amis sympathiques, et c'est vraiment l'esprit de la terrasse qu'on a tous envie de revivre aujourd'hui, et j'espère que les bistrots effectivement battent leur plein le plus possible, en tout cas que les terrasses sont accessibles.
En zone verte en tout cas. Quoi.
Exactement. Ensuite sur les blancs, et notamment Lionel Haussmann produit du Jurançon, dans la version sec, par exemple. En ce moment, il y a encore de très belles asperges.
Ah, c'est bien.
C'est une association sur Jurançon sec, asperges, qui fonctionne très bien. Quant aux rouges, qui sont légion dans la région, il y a des rouges un peu plus tendres, il y a des rouges plus puissants. Si on va sur Madiran, par exemple, ou Cahors, on a des vins plutôt de viande rôtie, du viande grillée. Là, sur les jolis barbecues d'agneau, par exemple,
ça fonctionne merveilleusement bien. Quoi. Lionel, racontez-nous, tout à l'heure, on évoquait également l'Armagnac, hein, c'est important. Donc là, vous avez une gamme apothicaire.
C'est c'est le, pour l'Armagnac, c'est le supplément d'âme du Sud-Ouest. On a la chance d'avoir non seulement des cépages rares, mais en plus, on a la chance d'en avoir quelques-uns qui se distillent remarquablement bien. Et ce supplément d'âme a toujours eu beaucoup d'importance pour moi, parce qu'on a la chance de faire des eaux de vie craft qui sont très à la mode aujourd'hui, sans le savoir. C'est un peu comme certains qui faisaient de la prose sans le savoir. Nous, on fait du craft sans le savoir, c'est-à-dire qu'on a une eau de vie extraordinaire, avec énormément de personnalité, sur des profils assez, je ne vais pas dire rustiques, mais en tout cas qui ont énormément de personnalité. Et ces eaux de vie-là, aujourd'hui, sont d'une jeunesse et d'une sont très me paraissent très contemporaines.
Très contemporaines. Dites-nous au niveau des ventes, Lionel, ça repart un peu là parce que vous avez souffert comme tous les vignerons de France qu'il faut matin, midi, soir encourager avec modération, mais les encourager. Dites-nous, ça repart un peu ?
Oui, ça y est. On sent le redécollage, l'énergie qui repart, surtout sur les cavistes qui sont nos premiers clients sur le marché français.
D'accord.
Et tant que la zone verte n'a pas été réouverte sur le CHR, mais je pense que ça sera plus qu'une question d'heure aujourd'hui, les cavistes sont repartis. On sent que
c'est une bonne nouvelle, ça.
Que l'enthousiasme est là.
Alors, il paraît qu'on vous a vu régulièrement planter des arbres. Là, qu'est-ce que vous faites ? Vous jardinez comme David Cobol ou vous plantez des arbres quand vous vendez 12 bouteilles ?
Alors, il s'avère que c'est l'ONF qui les plante. Mais en effet, depuis le démarrage de l'activité, pour tous les vins d'appellation que nous proposons à nos clients, pour chaque caisse de 12 vendue, nous plantons un arbre. Ce qui fait que nous avons planté plus de 30 hectares de forêt depuis sur les trois dernières années.
Super bien. Vous vendez combien de bouteilles par an, à peu près, toute gamme confondue ?
Alors aujourd'hui, la production totale s'élève à un peu plus d'un million de bouteilles.
Oui.
Un million et demi même, je crois.
Au total, quoi.
L'année dernière, au total, dont une grande partie de vin de TGP Gascogne, de vin de France et puis des appellations.
Et pour terminer, dites-nous, Lionel, il paraît que dans votre équipe, on a aperçu un grand monsieur qui a été international de rugby. Là, il est toujours avec vous ?
Ah oui, c'est mon camarade Imanol avec qui nous avons créé une
Imanol qui ? Parce qu'il y en a plein au Pays Basque d'Imanol, hein.
Alors, il y en a plein, mais qui ont été internationaux de rugby, il y en a quand même beaucoup moins. Hein. Mais en effet, Imanol Arinordoki m'a rejoint il y a 5 ans pour créer une aventure ensemble, puisque lui et moi avions des racines et des histoires familiales avec l'Espagne.
Oui.
Donc, nous avons eu envie d'importer des vins étrangers que nous apprécions beaucoup et pour les faire connaître aux consommateurs français.
Bon, en tout cas, bravo à tous les deux. On parle beaucoup de rugby à bord du Sud Radio, donc c'est parfait. On parle également de vin grâce à une vidéo, donc c'est reparfait. On vous souhaite beaucoup de bonheur. Dans un instant, le vidéo quiz pour gagner le livre Œnotourisme et Spiritueux dans le monde et en France, édité chez Erol. Et puis ensuite, un zoom sur un autre personnage du vin exceptionnel, François Villard, de ce rancœur de la vallée du Rhône septentrionale.
Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h.
Retour à la cave Nicolas à Paris, Place de la Madeleine pour cette émission délocalisée. Je rappelle que si vous voulez nous conseiller vos vignerons favoris, chouchou, n'hésitez pas à aller sur la page de Facebook d'Invino pour nous communiquer leurs coordonnées. Grâce à vous, on pourra les inviter dans notre émission. Philippe Orbach, c'est le moment du Vino Quiz.
Je vous en rappelle le principe, chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un beau cadeau. Cette semaine, le nouveau livre « Œnotourisme et spiritueux en France et dans le monde ». C'est pas beau ça ? Aux éditions Erol. Alors, on compte sur vous. Voici la question de ce week-end. Quelle formation suivait François Villard avant d'intégrer le milieu du vin ? Réponse A, magicien. Réponse B, cuisinier. Réponse C, ébéniste.
Oui, alors c'est pas très compliqué. Il suffit
magicien,
d'écouter
cuisinier, ébéniste, exactement.
Et après, comment ça marche, Philippe ?
Pour répondre, on vous le souhaite, gagner le nouveau livre « Œnotourisme et spiritueux en France et dans le monde » aux éditions Erol. Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz, et le gagnant sera tiré au sort parmi les nombreuses bonnes réponses.
Merci beaucoup, Philippe Orbach. On accueille maintenant justement ce garçon formidable dont vous parlez, François Villard. Bonjour, François.
Bonjour.
Bon, on va le dire dès le départ. Hein. Au départ, vous étiez cuisinier, mais vous avez toujours été attiré par le vin, c'est ça ?
En fait, je suis attiré par le vin depuis l'âge de 20 ans.
20 ans, quoi.
Mes parents étaient agriculteurs. Moi, j'ai fait une formation de cuisinier, puis je me suis rapproché en fait du vin. Je me suis passionné pour le vin à l'âge de 20 ans. Et puis, cette passion est devenue
votre quotidien, quoi. Voilà.
Oui, j'ai fait une formation en sommellerie, et la formation en sommellerie, après, m'a fait rencontrer des vignerons, et j'ai voulu devenir vigneron.
Ouais. Voilà quelqu'un de très bien, quand même.
Ça nous rappelle les souvenirs.
N'est-ce pas, cuisinier, sommelier.
Vous êtes parti, donc, c'est ça, à prendre le vin, quelque part, d'abord à Tain-l'Hermitage, et puis après à Mâcon. C'était deux belles aventures très formatrices, François.
Alors oui, parce qu'en réalité, bon, j'ai commencé à me passionner pour le vin à l'âge de 20 ans, mais en réalité, je n'y connaissais rien.
Nous non plus.
J'apprenais un petit peu à travers les livres. Et c'est vrai que j'ai fait en fait la première partie du BP Sommelier à Talermitage.
D'accord.
Qui m'a permis de rencontrer des vignerons, mais qui m'a surtout quelque part appris à déguster. Donc ça a été une grande découverte et une grande période pour moi.
Alors racontez-nous, vous avez acheté votre première vigne en 1988. Comment on fait pour trouver des vignes, quoi ? C'était par bouche à oreille, parce que vous étiez le petit copain de la fille du vigneron ? Qu'est-ce qui est passé ?
Non. J'étais à Davayer à ce moment-là. J'ai fait ma formation en viticulture et œnologie. Et il fallait que je fasse un stage pendant la période des vinifications. Et j'ai fait mon stage chez Yves Cuiron, qui a été mon premier maître de stage. Et j'ai été pour lui son premier stagiaire.
Oh là là, c'est une belle aventure qui dure. On en reparlera tout à l'heure, notamment avec les vins de Vienne. François Villard, Philippe Orbach, a investi en 2006 en appellation en achetant des vignes à Saint-Péray. Cette appellation, elle n'est pas forcément très connue du grand public, Philippe. Vous en pensez quoi ?
Oui, c'est vrai que c'est pas très connu. C'est très connu des gens du coin là-bas, et notamment des Valentinois, parce que c'est juste en face de Valence, de l'autre côté du Rhône, sur les contreforts de l'Ardèche. Ça jouxte par le sud l'appellation Cornas et pas loin de Saint-Joseph. C'est une appellation qui produit que du blanc, avec de la Roussanne et de la Marsanne, et qui a comme spécialité historique des vins effervescents à Saint-Péray. Mais aujourd'hui, les vins tranquilles, donc sans bulles, sont effectivement plus importants que les vins effervescents. Mais pendant très longtemps, c'était l'inverse.
Et François Villard, vous avez investi, il y a beaucoup de vignes là-bas, à vous ?
Je cherche, j'exploite un peu plus de 2 hectares.
Ah, quand même, oui,
J'achète un tout petit peu de raisin. J'ai à peu près 2 hectares de propriété, ouais, un tout petit peu de location, et j'achète un tout petit peu de raisin aussi sur la commune.
Parce qu'au total, là, sous la marque François Villard, donc vous avez combien d'hectares, on va dire, travaillés, hein, à vous ?
Aujourd'hui, j'exploite 40 hectares.
Ah, c'est beaucoup, 40 hectares.
Hein, 40 hectares sur la partie nord, hein, sur le Rhône septentrional.
Oui.
Et en fait, c'est l'ARL domaine François Villard qui exploite 40 hectares. Et elle vend ses raisins, l'ARL vend ses raisins à la SARL, donc société commerciale, qui par ailleurs en achète un petit peu à côté. Donc on vinifie, je pense, 60 et quelques hectares aujourd'hui.
Alors c'est vrai, quand on pense à l'exception peut-être de Condrieu, Vallée du Rhône, septentrional, on parle surtout au vin rouge, mais les vins blancs de chez vous, ils sont magnifiques, François.
Ben, moi, j'ai démarré sur l'appellation Condrieu, qui est avec l'Ermitage, une des appellations phares du Rhône septentrional, oui. Donc, avec un cépage qui est un cépage un peu unique, qui est le cépage Vionnier.
Philippe Orbach, Ermitage blanc. Mm-hmm. Pense à quoi ?
Je pense au bon Dieu, n'est-ce pas ? Pour revenir sur Condrieu et le Vionnier dont François parlait à l'instant, c'est vrai que c'est un cépage extraordinaire. C'est vrai que c'est un cépage très identitaire, à la fois du granit notamment, mais aussi de cette capacité à capter à la fois le soleil, à donner des vins qui ont une certaine ampleur tout en gardant une certaine fraîcheur. C'est un peu la limite de l'exercice d'ailleurs, parce que c'est pas toujours évident de
parfois il y a une petite pointe de sucrosité, non ? Je me trompe ou
pas ?
Oui,
et d'ailleurs, à une époque, on faisait pas mal de Condrieu moelleux, voire même parfois liquoreux. Aujourd'hui, la tendance est plutôt de faire des Condrieu secs, mais il y a toujours une tradition. Je ne sais pas si François en produit encore un peu, mais je sais que Cuiron, par exemple, Yves en faisait sa cuvée.
Yves en fait toujours un peu.
Les Aiguets, notamment. Il y a Guy Gall qui en fait un petit peu aussi, la cuvée Luminescence. Et ce Vionnier, il a une capacité de séduction assez incroyable, parce que ses parfums de violette, ses parfums d'abricot notamment, ce côté un peu fruit du verger.
Et un potentiel de garde.
Alors, soit on les aime jeunes parce qu'ils sont éclatants de fruité, et effectivement, ils sont très très plaisants, et notamment en début de repas, l'apéritif, c'est vraiment un vin d'accueil. Soit on les aime avec un peu plus d'ampleur, un peu plus de suavité peut-être, on les garde. J'ai goûté récemment un Condrieu 2004, donc qui a déjà, comme on s'en doute, un certain, l'année où on a créé notre émission,
et oui.
Eh bien, il était encore tout à fait remarquable.
Ouais, c'est fou. François Villard, vous confirmez les propos de Philippe ? C'est-à-dire qu'il y a
oui,
deux
oui,
styles
oui.
quelque part autour de Condrieu, jeune ou alors un peu plus affirmé ?
Oui, dans la jeunesse, bon, Condrieu est surtout connu pour... on le connaît surtout dans sa jeunesse, mais c'est vrai qu'au vieillissement, ce sont des vins, alors Philippe, j'espère, ne me démentira pas, mais ce sont des vins qui ont quelque part, qui peuvent aller sur des accords assez bourguignons. Quand on prend un Condrieu qui a un petit peu d'âge, on peut très bien le mettre avec une viande blanche, avec une viande, une poularde au mori ou quelque chose comme
ça. Absolument.
Et ça marche plutôt bien. Mmh. Alors après, le vieillissement du Condrieu, c'est quelque chose d'assez délicat. Je pense qu'il faut, prendre des Condrieux qui ont été vinifiés dans le bois et qui auront une meilleure, qui auront eu une oxygénation ménagée qui leur permettra vraisemblablement un vieillissement plus harmonieux.
Enfin, ça, moi, c'est intéressant.
C'est mon avis.
Je pense, François, aussi que c'est mieux. Et le bois, effectivement, nous rapproche un peu de l'esprit bourguignon.
Oui, c'est
d'ailleurs.
Ça.
Et le 2004 dont j'ai parlé il y a un instant, je l'ai goûté d'ailleurs avec une volaille rôtie au citron confit.
Et c'est excellent.
C'était juste parfait.
François, vous avez également apprivoisé un autre cépage très important chez vous, c'est la Syrah. Quoi. C'est un cépage roi, la Syrah aussi.
Disons qu'en blanc, on a un petit peu de choix parce qu'on a le Viognier qui est le cépage de l'appellation Condrieu et de Châteaugrillet, la Marsanne, la Roussanne qui sont les deux autres cépages blancs de toutes les appellations blanches de la région. Mais la Syrah, c'est l'unique cépage rouge.
Et aujourd'hui, donc au niveau, on va dire des vendanges, parce que chez vous, c'est quand même pentu là. Vous travaillez les vignes, vous êtes balèze physiquement là-bas, non ?
Ce ne sont pas les endroits les plus plats de la France.
Le plat pays est lointain, c'est ça que vous voulez dire. Même s'ils en consomment beaucoup de vin.
Les fameux chaillets de l'enfer portent bien leur nom.
Oui, on est sur des pentes assez escarpées, oui.
Et alors, Philippe Forbach, d'ailleurs, est-ce que le vin est meilleur parce qu'il y a une vendange manuelle ou une vendange mécanisée ? Est-ce que ça a une influence sur la qualité du filet du vin ou pas ?
Ça dépend de la rigueur, j'allais dire, de celui qui taille. Parce qu'effectivement, si on a affaire à des vendangeurs qui sont extrêmement précis et méticuleux, bien entendu qu'on peut...
La vendange manuelle.
On peut davantage trier, bien entendu. Maintenant, et sur des endroits escarpés comme c'est le cas dans le nord de la vallée du Rhône, de toute façon, c'est quasiment impossible de mécaniser. Donc le choix, il est d'aller vers l'humain.
Des chevaux, peut-être, non ? Un Pégase, un cheval qui vole.
Oui, oui.
Il y a quelques personnes chez nous qui ont repris un petit peu de travail au cheval, mais c'est pas très évident parce qu'en fait, on a vraiment des terrasses qui sont
même les chevaux ne passent pas, même les mules.
Non, parce qu'en fait, les terrasses sont reliées les unes entre les unes entre elles par des escaliers, donc les chevaux ne pourraient pas passer. À la différence des terrasses de Banyuls, où Banyuls, historiquement, travaillait avec des mulets, et les mulets enjambaient les petits murets.
Oui, c'était dressé. Mettez un escalator,
mais chez nous, les murs sont beaucoup plus hauts.
François, racontez-nous, depuis 2019, vous êtes en conversion bio, ça c'est une vraie philosophie pour vous.
Alors c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Alors, si je dis que ça me tient à cœur et que je dis que je suis simplement en conversion, c'est qu'en fait, on est dans une région, comme on vient de l'expliquer, une région qui n'est pas vraiment simple, où on a énormément de travail manuel. Moi, j'ai 40 hectares de vignes, j'en ai 18 qui ne sont pas mécanisables. Et je dirais envers lesquels il a fallu avoir beaucoup de réflexion pour s'atteler à cette tâche.
Côté distribution, François, racontez-nous. Donc, vous vendez en France, également à l'international. Comment ça se passe en ce moment ?
Si je vous dis que ça se passe bien, je suis un gros menteur.
Oui.
Non, c'est assez calme. Ça redémarre. En ce moment. On est plutôt mieux en cette fin mai qu'il y a un mois. Mais c'est pas parfait. L'export marche pas très bien encore. On a quelques petites commandes, mais
ouais, c'est vraiment
beaucoup de pays sont encore en fin de confinement.
C'est quoi ce concept des vins de Vienne, là ? Avec vos complices Pierre Gaillard et Yves Cuiron ?
Ça devient une vieille histoire.
On vieillit, ben oui, c'est ça. On est condamné à se répéter ou à se contredire, François.
Cette histoire, elle a commencé en 1995 avec Yves Curon et Pierre Gaillard, en prenant la décision d'aller replanter quelques vignes sur l'ancien terroir de Sessuel. C'est un vignoble qui avait disparu à la fin du 19e siècle avec l'arrivée des phylloxéra et qui... à l'opposé des vignobles de la rive droite, n'avait jamais été replanté. Donc Sessuel se trouve sur la rive gauche du Rhône, juste au nord de Vienne.
Et vous avez planté quoi en fait.
Donc on a planté les cépages qui avaient toujours existé jusqu'au phylloxéra, c'est-à-dire la Syrah pour les rouges, et un peu de Viognier également.
Bon, ben merci beaucoup François Villard, merci également à vous Lionel Haussmann, voilà. Philippe Forbach, ainsi qu'aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un double clin d'œil à Angéline et Émilie qui ont préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv ou notre page Facebook Invino. On se retrouve demain à 12h30 pour une nouvelle émission, toujours délocalisée. chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. Nous recevrons le frère Vinitor, faut pas le dire, mais c'est pas son vrai nom, quoi, de l'abbaye Sainte-Madeleine du Barou, au pied du Mont Ventoux, dans une région sublime. On parlera également d'autres beaux vignobles, notamment Pécharmant, ainsi que de l'usage abusif de certains mots ou appellations dans le vin. Voilà, on copie, mais nous aussi, il faut parfois qu'on nettoie devant notre porte. D'ici là, excellent déjeuner, restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons de France et surtout n'oubliez jamais, respectez la plus grande des modérations.
Sud Radio, Invino.